Bonjour et soyez les bienvenus à Le Quotidien des quotidiens du 21 juin 2018, solstice d'été. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour.
Êtes-vous content, l'été est arrivé?
Toujours.
Est-ce qu'on va faire jouer des chansons qui concernent l'été?
Si vous voulez.
Demande spéciale.
D'accord.
Voilà l'été, les négresses vertes.
Ah oui, c'est une bonne idée.
Et Summertime, Ella Fitzgerald.
D'accord.
C'est quand je vous le dis comme ça, vous n'avez pas le choix.
Surtout en ondes, exactement.
Oui, alors je vous laisse aller avec les éphémérides.
Alors, namasté pour la journée internationale du yoga. C'est 21 juin, c'est aussi la journée mondiale de l'humanisme. C'est aussi la journée internationale de la lenteur.
Oui, on en parlait hier avec Jean-Sébastien. Alors, oui, bonne journée.
Voilà.
Internationale ou mondiale?
Internationale. Okay. La journée nationale des peuples autochtones. Et c'est aussi la première journée de l'été, donc bon été tout le monde. Quoi d'autre le 21 juin? En 1749, l'administrateur anglais Charles Cornwallis fonde Halifax. En 1764, la Gazette de Québec paraît, donc premier quotidien publié au Bas-Canada. En 1788, la Constitution des États-Unis entre en vigueur. 1919, après 5 semaines de grève générale à Winnipeg, la police tire dans la foule, tuant 2 manifestants et en blessant 30. Les Japonais se rendent aux Américains à Okinawa en 1945, toujours un 21 juin. En 1948, la maison Columbia Records lance le premier disque micro-sillon pressé dans la vinylite. Il inclut le concerto pour violon de Mendelssohn et 2 extraits du spectacle South Pacific. En 1967, à Québec, adoption de la loi qui crée les collèges d'enseignement général et professionnel. Nous avons en 1971, début des travaux au chantier de la Bay James. 21 juin 1977, un incendie fait 21 morts parmi les détenus dans un poste de police de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. 21 juin 1983, le gouvernement Lévesque décide de nationaliser le transporteur québécois qui fera par la suite faillite. En 1984, entrée en vigueur du premier amendement à la Constitution canadienne de 1982 accordant de nouveaux droits aux Autochtones. Et 2004, Spaceship One devient le premier avion à effectuer un vol privé dans l'espace. Et pour ce qui est des naissances, 21 juin 1905, naissance de Jean-Paul Sartre, écrivain et philosophe français. Et pour ce qui est des décès, nous avons perdu Pierre Lalonde, le chanteur et animateur de télévision québécois, en 2016, et le bluesman John Lee Hooker, qui est décédé le 21 juin 2001.
C'est particulier parce qu'hier, il y a quelqu'un, une collègue de travail, qui me demandait si Pierre Lalonde était toujours en vie. Je dis non, il est mort à 75 ans. Et ça fait combien d'années? 2 ans déjà?
Oui, 2016.
Ça va vite. Merci Mathieu.
Avec plaisir.
À la une de la presse, un propriétaire de taudis arnaque des migrants. Des appartements insalubres, sans chauffage, loués malgré un refus de les faire visiter. De mauvaises adresses sur les baux pour faire payer un studio plus de 800 $ par mois. 5 familles nigérianes victimes des tactiques d'Israël Freundlich se sont confiées à la presse. La fin de la séparation des familles, pas de la tolérance zéro. Notre envoyé spécial a assisté à un procès de masse de migrants interceptés à la frontière. La chronique de Francis Vaille, et si Alain Bellemare avait visé juste, le titre boursier de Bombardier a atteint un nouveau sommet hier. Pause repas, un panier d'épicerie 100% québécois, est-ce possible? La chronique d'Yves Boisvert intitulée « C'est plus qu'une crise américaine ». La crise politique des enfants migrants séparés de leurs parents nous concerne parce que c'est avant tout une faillite morale au plus haut niveau des États-Unis. Devant ce nouvel exemple d'un gouvernement aussi menteur, aussi corrompu moralement que l'est l'administration Trump, Ce qu'on appelle le monde libre se trouve orphelin, qu'on le veuille ou non. Hier, le maire de New York, Bill de Blasio, a appris que les autorités fédérales avaient installé depuis quelques jours une prison pour enfants de migrants dans sa ville. Ils n'appellent pas ça une prison, et ils ont raison. Dans une prison, on peut au moins recevoir la visite de ses proches. Il y a parmi les 239 enfants de ce centre un bébé de 9 mois arraché à sa mère. Il y a aussi des gamins qui ont été mis dans un autobus depuis la frontière mexicaine et ont roulé 3000 km jusqu'à New York. On ne sait plus où les fourguer. Que voulez-vous? Tout ça parce qu'au début du mois de mai, les États-Unis ont adopté cette politique de tolérance zéro. On arrête les migrants, on les emprisonne pour les accuser du crime d'avoir traversé la frontière. Mais on ne peut pas mettre les enfants dans de vraies prisons. Alors on les met dans ces endroits grillagés, loin de leurs parents. Auparavant, les migrants étaient libérés rapidement avec promesse de comparaître, mais bien souvent, ils prenaient la clé des champs. C'est ainsi qu'il y a 11 millions d'immigrants sans statut légal aux États-Unis. C'est ainsi qu'on en expulse régulièrement, y compris sous Obama. C'est ainsi que Trump veut construire un mur pour arrêter le flot. Et c'est ainsi, finalement, que le procureur général Jeff Sessions a mis en vigueur cette nouvelle politique au mois de mai, comme un avertissement. Cessez d'utiliser vos enfants, on va vous les enlever. Sauf que si l'on fuit la violence au Honduras ou la pauvreté extrême au Mexique, c'est un risque qu'on est prêt à courir. Hier, Trump a signé un nouveau décret censé mettre fin à cette politique. Le texte n'est pas aussi radical. Il est question de détenir les familles étrangères ensemble où cela est approprié et en accord avec la loi et les ressources disponibles. Or, les ressources d'emprisonnement familial ne sont pas disponibles, sinon on ne serait pas allé transbahuter ses enfants à New York. Bien hâte de voir la suite. Toute la semaine, Trump a prétendu qu'il ne pouvait rien faire, que les autorités ne faisaient qu'appliquer la loi, que c'était la faute des démocrates qui empêchaient la réforme de l'immigration qu'il réclame, dont ce mur. Pendant ce temps, d'autres ne se contentaient pas de dire « c'est pas de notre faute ». Ils défendaient la politique de séparation. Jeff Sessions, ce dévot méthodiste horrifié par les avortements, justifiait l'arrachement des enfants à leurs parents. On ne peut pas, et on ne veut pas encourager les gens à amener des enfants en leur donnant la pleine immunité quant à l'application de nos lois. Il ajoutait la semaine dernière que ces enfants reçoivent de meilleurs soins que bien des enfants américains. On sait depuis que les travailleurs sociaux manquent partout et que des adolescentes doivent enseigner à de plus jeunes comment changer les couches de bébés. Le vieil hypocrite a même cité saint Paul dans sa 13e épître aux Romains, qui souligne l'importance de se soumettre à l'autorité, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ces gens poursuivent une mission divine, voyez-vous? Une semaine plus tard, alors, quelle est la vérité? C'est la faute des démocrates? Non, puisque d'un trait de plume, Trump a donné l'impression d'annuler la directive de son procureur général. Et c'est un bon moyen de décourager les entrées illégales ou pas. On disait que ces enfants étaient des criminels dans bien des cas et qu'il fallait s'en méfier. Ce n'est plus vrai? Cette crise dépasse les frontières américaines. Elle est seulement le dernier exemple de l'incompétence morale et politique de cette présidence. Quand le président des États-Unis n'est plus fiable, quand il est incapable de rallier les pays démocratiques autour de principes communs, quand il attaque tous ses alliés, le monde entier est affecté, bouleversé. Cette crise le montre tel qu'il est, affreux. Non pas qu'on soit passé d'une république vertueuse soudainement à un gouvernement d'affreux. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis se retrouvent face à la réprobation internationale. Du bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki à la guerre du Vietnam et au coup d'État, en passant par les séances de torture de la CIA et la guerre en Irak, le pays le plus puissant au monde a été dénoncé tant et plus. Simplement, jamais auparavant n'avait-on fait face à un gouvernement aussi ouvertement menteur, agressif envers ses meilleurs alliés, incapable de justifier ses décisions dans l'ordre juridique. Il y a la Bible, un coup mal pris. Donald Trump se fout du reste du monde. Il ignore sans complexe ce qui se passe sur la planète. Le reste du monde n'a pas ce luxe-là. Comment faire un traité? Comment faire avancer le monde? Comment se protéger des menaces communes avec ça? Cette fois, il a retraité, probablement en voyant quelques sondages montrant que des segments clés de l'électorat, les femmes blanches républicaines de la banlieue de Dallas et de Columbus, mettons, rejetaient cette politique cruelle. Des gens qui savent très bien que ça ne venait pas de Dieu ou des démocrates et qui peuvent le punir aux élections de mi-mandat. Mais maintenant, de un, ce n'est pas réglé pour autant. De deux, ça va continuer comme ça et pire encore. Denis Lessard, mauvaise nouvelle pour Lisée. La plus mauvaise nouvelle pour Jean Lisée est carrément passée sous le radar. Il y a quelques jours, Jean-François Gibault, conseiller perpétuel du Parti québécois en matière économique, a annoncé son départ pour le secteur privé. Et il ne sera pas là pour la campagne électorale. M. Gibault, qui était là depuis 17 ans, a été mêlé à toutes les positions du PQ sur les questions économiques, de l'abolition de la taxe santé en 2012 jusqu'à l'abandon du REM en 2018. Moment rarissime, les délégués péquistes en Conseil national avaient rendu hommage à cet employé politique qui avait débusqué une erreur dans les comptes publics fédéraux. De surcroît, il était l'un des rares chez les péquistes à bien connaître François Legault, une science utile quand on prépare des débats. Au seuil de la campagne électorale, avec un Jean-François Lisée qui n'a aucune prédisposition pour les chiffres, ce départ, c'est comme entrer dans la forêt sans boussole. Heureusement pour lui, il aura toujours sous la main Nicolas Marceau, l'ex-ministre des Finances, qui faisait la paire avec le conseiller économique. Les Canadiens pourront consommer du cannabis à des fins récréatives en toute légalité à partir du 17 octobre, annoncé hier le premier ministre Justin Trudeau à la Chambre des communes. La légalisation de la marijuana surviendra donc 2 semaines environ après la tenue des élections provinciales au Québec prévues le 1er octobre. Ce faisant, le Canada deviendra le premier pays du G7 à légaliser cette drogue et le 2e au monde à le faire après l'Uruguay. Bien que certains États américains aient aussi déjà légalisé la consommation du cannabis au cours des dernières années. Mardi soir, le Sénat a décidé de ne pas tenir tête au gouvernement Trudeau en votant pour le projet de loi C-45 visant à légaliser la marijuana, même si ce dernier a rejeté les amendements que plusieurs sénateurs jugeaient essentiels. Un vigneron vedette visé par des allégations de harcèlement sexuel. L'an dernier, son vin était servi à l'ancien président Barack Obama et au premier ministre Justin Trudeau dans un restaurant de Montréal. Hier, des restaurateurs se dépêchaient d'effacer toute trace de ces produits sur leur carte. Jusque-là, star de la viniculture, le vigneron ontarien Norman Hardy est devenu persona non grata dans la foulée d'une enquête du Globe and Mail révélant des cas de harcèlement et d'attouchement sexuel sur des femmes. Le service de police de la Ville de Montréal va changer complètement l'allure de ses voitures de patrouille et des écussons que portent ses agents à la manche. Les nouvelles voitures arboreront une signature visuelle distinctive très différente de celle des autres corps policiers municipaux du Québec, avec beaucoup de bleu foncé, un lettrage de grande taille, davantage de gyrophares et de nouveaux éléments réfléchissants pour améliorer leur visibilité la nuit. Ils seront introduits par attrition au fil du remplacement des voitures blanches actuelles. Pour les écussons, le nouveau directeur Martin Prudhomme tenait à éliminer la distinction entre l'écusson bordé d'or des officiers et l'écusson bleu des policiers de la base. Un corps de police, un seul écusson pour tout le monde, a-t-il demandé. Algérie. L'Internet a été coupé hier sur l'ensemble du territoire algérien durant la première heure de chacune des 2 premières épreuves du baccalauréat et il en sera ainsi tout au long de l'examen jusqu'au 25 juin afin d'éviter les fraudes. Entre 8h30, lancement de la première épreuve du baccalauréat 2018, et 9h30, puis au début de la deuxième épreuve, entre 11h30 et 12h30, tous les accès à l'Internet, fixe ou mobile, ont été coupés, a constaté le bureau de l'AFP à Alger. L'Internet sera ensuite coupé chaque jour au début de chaque épreuve durant 1 heure le matin et durant 1 heure l'après-midi jusqu'au lundi 25 juin, conformément aux instructions du gouvernement visant à assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat, indique Algérie Télécom.
Quel été, on ne peut plus beau, quel été comme un flambeau, dans ma vie. Quelle saison sur mon rivage, quel chagrin sur ton visage, je te suis. Tes bras sur ma tête nue, ton corps sur les herbes nues, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Quel casse-tête dans tes souliers, ma main fière désemparée, je te mords. Quelle chenille sur tes sourcils, quelle cheville dans mes souris, sur la plaine. Ton visage bleu et orange, dans la nuit interrompue, je te veux, je te veux, je te veux. Ah, 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 ah. Quelle marée insoupçonnée, quel fantôme dans ton casier, et j'ai peur de t'aimer, te décevoir. Tu persis dans ton miroir en écaille. Un pissenlit sur ton front, un canard près du fourgon, un papillon sur le pont qu'on peut prendre, qu'on peut prendre, qu'on peut prendre.
Philémon Simon, la chanson « Quel été ».
À la une du Devoir, une photo, en fait, c'est une BD, Bonjour Tristesse, du roman culte à la BD Lumineuse, un article signé Fabien Deglise. Autochtone Barrette accusée de nourrir les préjugés. Cet octobre, le jour de la Marie, avant cette date, posséder du cannabis continuera d'être illégal. Migrants devant le tollé général, les États-Unis cessent d'enlever les enfants à leurs parents. La maladie de Lyme continue de progresser au Québec. Des membres de la communauté autochtone accusent le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, d'encourager les préjugés à leur endroit en insinuant que des parents du Nunavik risquent encore d'être expulsés de l'avion ambulance en raison d'une consommation de drogue ou d'alcool. Je peux vous garantir qu'il y aura au moins un cas dans les 6 prochains mois où quelqu'un ne sera pas admis dans l'avion. Pourquoi? Parce que quiconque est agité, drogué ou sous l'influence de quoi que ce soit, ou sous l'influence de quoi que ce soit, ne sera pas autorisé à monter à bord. Sous aucun prétexte, ça n'arrivera pas. Et ça arrive tout le temps, a affirmé le ministre dans un enregistrement audio obtenu par Le Devoir et CBC. Le maire de Coudjouac, qui a pris connaissance de ces déclarations, s'est dit profondément choqué et déçu qu'un ministre de la Santé puisse tenir de tels propos, même en privé. Dans un courriel envoyé par son attaché de presse, le ministre Barrette n'a pas nié qu'il a eu cette conversation avec un citoyen, conversation qui visait à bien lui expliquer les enjeux entourant les évacuations aéromédicales. mais il s'est défendu d'avoir fait directement référence à une communauté autochtone. Il a été effectivement mentionné qu'un parent ou un proche agité ou sous l'influence d'une substance toxique pourrait se voir refuser l'accompagnement d'un enfant à l'intérieur de l'avion hôpital. Il s'agissait de l'énumération d'une règle de sécurité de la politique d'accompagnement qui s'adresse à tout parent ou proche, peu importe son origine, pouvait-on lire. Selon lui, les motifs qu'on tente de lui imputer sont infondés et il déplore cette interprétation de ses propos. Indignée, Hélène Gabriel, leader de la communauté Mohawk, n'a pas mâché ses mots qualifiant de racistes les propos de M. Barrett. Les préjugés racistes existent à tous les niveaux du secteur de la santé. Ni moi, ni les équipes évacuation aéromédicale du Québec n'y faisons exception et ont des conséquences néfastes pour les communautés autochtones, a dit pour sa part Samir Shahin Hussein, pédiatre urgentiste et professeur à la faculté de médecine de l'Université McGill. Dans l'imaginaire collectif, ça risque vraiment de soulever l'image du « drunk Indian » qui est hors contrôle et qui ne peut pas être calme, et qui ne peut pas être calme pour un transport aéromédical. Après la mise au jour de dépenses jugées excessives, le Québec pose des conditions à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, quant à l'utilisation d'une partie de sa contribution. La ministre des Relations internationales, Christine Saint-Pierre, expliquera de vive voix jeudi à la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, la décision du gouvernement québécois de préciser de façon plus explicite ses attentes relativement à l'utilisation des sommes qu'il verse à l'organisation en qualité de contribution volontaire. Il y aura un montant d'argent sur lequel on va avoir le plein contrôle, résume-t-elle dans un entretien téléphonique avec Le Devoir mercredi. D'autre part, Mme Saint-Pierre demande officiellement à Mme Jean, dont elle appuie le renouvellement du mandat à la tête de l'OIF, de prendre des engagements concrets en matière d'administration rigoureuse et transparente des ressources de l'organisation internationale. Qui plus est, elle invite les autres États et gouvernements membres à en faire autant. Montréal et Saint-Lambert disent travailler main dans la main pour régler les problèmes de bruit provenant du parc Jean Drapeau. Trois sonomètres seront bientôt installés autour du site afin de mesurer les décibels en temps réel. À compter de juillet, les mesures de son seront prises toutes les 15 minutes et seront disponibles en temps réel sur un site Internet. À la lumière des données recueillies, les deux villes pourront établir un plafond de décibels autorisé pour le printemps 2019. Une soirée d'information est prévue le 28 juin prochain au Centre multifonctionnel de Saint-Lambert afin de discuter du dossier. Une ligne téléphonique 514-872-6120 permettra aussi aux citoyens de formuler des commentaires les soirs de spectacle. Les relations étaient tendues entre Montréal et Saint-Lambert sous l'administration Coderre en raison du bruit provenant des spectacles au parc Jean Drapeau. Québec a décidé de remplacer les manuels d'histoire utilisés dans les écoles secondaires de la province afin d'y ajouter du contenu sur les peuples autochtones. C'est la deuxième fois depuis 2016 que le gouvernement révise le programme d'histoire du secondaire. Lancé en 2016, le programme de 2 ans qui commence en troisième secondaire a suscité de la controverse, les communautés culturelles de la province estimant qu'il n'accorde pas suffisamment de place aux non-francophones. Dans une lettre récemment envoyée au président des commissions scolaires du Québec, la sous-ministre de l'Éducation, Sylvie Barcelot, écrit que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire des peuples autochtones du pays, notamment en ce qui concerne les pensionnats indiens et sur la terminologie appropriée pour les désigner. Selon la sous-ministre, les recommandations de la Commission ont eu un impact sur le programme d'histoire du secondaire qui a été revu afin de mieux rendre compte du point de vue autochtone. We'll be right back. les MR63 prennent leur retraite. Après avoir roulé pendant plus de 50 ans dans les tunnels du métro de Montréal, les voitures MR pour matériel roulant, 63 pour l'année, prennent officiellement leur retraite jeudi, aujourd'hui. En guise d'adieu, le dernier train a effectué une tournée des quatre lignes cette semaine. Mercredi, il était sur la ligne orange et jeudi, il accueillera des passagers sur la ligne bleue aux heures de pointe. Certaines voitures MR63 auront toutefois une seconde vie puisque, à l'automne 2016, la Société de transport de Montréal a approuvé 7 projets visant à en recycler une quarantaine. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi la nomination de Julie Miville-Deschênes comme sénatrice indépendante pour le Québec afin de pouvoir de pourvoir un siège vacant à la Chambre haute. Journaliste à Radio-Canada durant plus de 25 ans, Mme Miville-Deschênes était devenue en 2007 la première femme ombudsman de Radio-Canada au service français. En 2011, Mme Miville-Deschênes a été nommée présidente du Conseil du statut de la femme du Québec. Elle a ensuite été représentante du Québec au sein de la délégation permanente du Canada à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, à Paris. Les négociations s'accéléreront. Chrystia Freeland promet de l'aide au secteur de l'acier et de l'aluminium canadien. Loin d'être dans l'impasse, la renégociation de l'ALENA se poursuivra cet été et même s'intensifiera, dit Chrystia Freeland, qui reste convaincue qu'une entente finira par être trouvée, en dépit du protectionnisme de Donald Trump et des rumeurs de guerre commerciale mondiale qu'il a déclenchée. Bon été tout le monde, 21 juin 2018, la journée la plus longue, en fait la plus lumineuse, et ça fait tellement de bien au moral. Merci d'être là.
Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus, tous ces... foutu. Vivement l'automne, je me sens tout aiguillé. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, la chair s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rougir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, la chair s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été,
voilà l'été.
Eh oui, les négresses vertes qui nous chantaient « Voilà l'été ».
Une information, je pense, importante pour ceux et celles qui s'apprêtent à prendre la route. Un camion en flammes force la fermeture de l'autoroute 40 Est à Montréal à la hauteur du boulevard des Caries. Un poids lourd de la société Beauval transportant un chargement de terre a pris feu vers 10 heures ce matin. Le chauffeur est sorti à temps et n'a pas été blessé. La circulation est fermée jusqu'à nouvel ordre dans ce secteur. Québec 511 rapporte les détails sur son fil Twitter. Donc, c'est autoroute 40 Est à la hauteur du boulevard des Caries. En une du Journal de Montréal, enquête pour crime en série, accusation d'agression sexuelle au Super Aqua Club. Régent Julien Proux, propriétaire du Super Aqua Club de Pointe-Calumet, a été accusé d'agression sexuelle sur un adolescent de 16 ans hier. La police soupçonne qu'il pourrait avoir fait plusieurs victimes. Accusés de fraude, trahis par leur Mercedes. Et le nouveau look de la police. La Commission veut forcer le retour au travail des grutiers. La CCQ doit présenter une requête au tribunal du travail aujourd'hui. Rien n'indique toutefois que la grève prendra fin aujourd'hui. Selon nos sources, elle doit plutôt continuer jusqu'à mardi, après la longue fin de semaine de la fête nationale. Au chantier du nouveau pont Champlain, les grutiers sont en débrayage complet depuis le 14 juin. Aucune activité de levage n'a eu lieu depuis cette date, dit Véronique Richard-Charrier, porte-parole du consortium Signature sur le Saint-Laurent. Ailleurs au Québec, la grève a commencé lundi après plus d'une semaine de refus coordonné des heures supplémentaires. Les grutiers protestent contre les récents changements au règlement concernant la formation des grutiers, qui, selon eux, diminuent la sécurité sur les chantiers. Terrible nouvelle, noyade d'une fillette de 7 ans en Montérégie. Une fillette de 7 ans s'est noyée après avoir échappé à la vigilance de ses parents hier en Montérégie. Le drame s'est produit vers 17h15 sur la rue des Orioles à Saint-Amable, près de Sainte-Julie. Une mère de 3 enfants était en train de préparer le souper à l'intérieur lorsqu'elle aurait constaté que sa plus jeune manquait à l'appel. En sortant sur sa galerie, elle aurait aperçu un corps au fond de la piscine et elle se serait mise à hurler, a confié un voisin. C'est accidentel d'un bout à l'autre, a souligné le capitaine Michel Lefebvre de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Ça s'est passé en l'espace de 4 à 5 minutes. La mère l'a cherchée. Elle se demandait où elle était rendue et l'a trouvée dans la piscine. Des chaises de travail ridicules à l'université. Une cinquantaine de ces bancs ergonomiques payés 5 340 $ ont été remis au cours du mois de mai aux employés de construction de l'université, menuisiers, mécaniciens, électriciens, ferblantiers, dans leurs ateliers de travail. C'est glissant et au bout de 5 minutes, je sentais déjà une pression sur mes cuisses. Ce n'était pas du tout confortable, a indiqué un employé au journal. Quand je m'assois pour réparer un moteur, j'aimerais au moins pouvoir avoir une chaise avec un dossier, mentionne-t-il, préférant taire son nom pour éviter les réprimandes de son employeur. Dans son atelier, tous les employés ont délaissé leur nouveau banc qui gise maintenant empilé dans un coin de la salle. C'est une chaise ridicule, ça a l'air fou, a réagi Sylvain Chicoine, président du syndicat des employés d'entretien de l'Université de Montréal. Elle donne mal au dos et aux fesses, et en plus, on glisse vers l'avant, c'est dangereux. L'université assure que ces bancs sont convenables et précise que les employés de corps de métier passent la majorité de leur quart de travail sur le terrain et non dans leur atelier. Les nouveaux bancs qui ont été vérifiés par une ergonome de l'université sont destinés à être utilisés comme siège d'appui pour tenir une position semi-debout. Le fils de Mom, entre guillemets, prend 6 mois de prison. Le fils de l'ancien chef motard Maurice Mom-Boucher a écopé d'un peu plus de 6 mois de prison pour avoir donné un coup de bâton de baseball à un simple passant qui tentait d'intervenir alors qu'il était en crise en pleine rue. Il n'avait aucune raison de s'en prendre à la victime. Il est clair que le geste doit être dénoncé, a affirmé le juge Alexandre Dalmot avant de condamner Francis Boucher la semaine passée au Palais de justice de Montréal. Cette condamnation ne fait qu'ajouter au frasque de la famille Boucher. En début de semaine, la fille de Mom a été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies. Au début du mois, la femme de 28 ans avait écopé de 21 mois de prison à domicile pour recel d'argent provenant de la criminalité. À 9 ans, il amasse 2000 $ pour son ami handicapé. Il a trouvé une commandite pour vendre 900 hot-dogs. Mathis Desrosiers, 9 ans, s'amusait au mois d'avril dans des jeux gonflables dans son village de Saint-Boniface en Mauricie. Il a alors pris l'initiative d'aller voir le gérant du casse-côte Mont-Blanc, Alain Gauthier. Il lui a expliqué qu'il voudrait avoir des hot-dogs pour pouvoir les vendre et ainsi aider son ami Vincent Gervais, 17 ans, qui vit avec la dystrophie musculaire. Ils se sont serrés la main après avoir conclu une entente pour 900 hot-dogs. L'adolescent rêve d'avoir un bras robotisé pour conserver un maximum d'autonomie. Lui qui a déjà perdu l'usage de ses jambes, ses autres muscles s'affaiblissent avec le temps. En plus de demander cette commandite, Mathis Desrosiers a aussi écrit une lettre au maire de la municipalité avec sa mère et son chef scout. Il lui a demandé d'utiliser le terrain à côté de l'école. La mère de Mathis Desrosiers, qui enseigne à la maternelle de l'école Sainte-Marie, a publicisé l'événement à l'intérieur de l'école. Le vendredi 15 juin, 600 personnes ont dîné au hot-dog sur ce terrain, ce qui a permis de remettre 2 080 $ à Vincent Gervais. « J'étais surpris de voir que je comptais pour autant de personnes », dit Vincent. des perroquets, un crocodile, un lion empaillé ou encore des crânes de babouins. 27 000 reptiles, 4 000 oiseaux, 48 primates vivants et 14 félins ont été saisis lors d'un impressionnant coup de filet mondial contre le trafic d'animaux sauvages, a annoncé Interpol hier. L'opération menée au mois de mai dans 92 pays a conduit à l'identification de quelques 1400 suspects. Les photos mises en ligne par Interpol montrent notamment des inséparables petits perroquets entassés dans un carton, un crocodile saisi près d'une mare en Équateur ou un lion appaillé. Outre les animaux, 43 tonnes de viande sauvage, dont de l'ours, du zèbre ou de l'éléphant, ont notamment été interceptées, ainsi que 1,3 tonne d'ivoire et les carcasses de 7 ours, dont 2 polaires. La saisie globale se chiffre en millions de dollars, indique Interpol.
On l'attend tous à dîner chaque année, par les carreaux des fenêtres fermées. Mais toujours il revient, à point plus ou moins, l'été qui rend beau et qui rend bien. Il a tout son temps pour l'éternité. C'est pas une raison pour se faire prier. La joie semble si loin quand la grisaille tient, tête aux sandalettes jusqu'en juin. Tout est mieux dès que ça sent l'été et les demi-panachés. Comme on est plus fort, on éteint la télé. On prend le soleil, on en fait le tour. Toutes les terrasses nous font la cour. Elles nous tiennent des discours, elles nous parlent d'amour. La nuit tombée, elles se croient en plein jour. C'est mieux dès que ça sent l'été et les sardines grillées. Tout le monde a des projets en forme de trajet vers une île enchantée. Tout va mieux dès que ça sent l'été. La vie prend des libertés. Le soleil l'a fait briller, l'avenir est bronzé, dès que ça sent l'été. Les femmes se remettent au régime, et les hommes transpirent dans les salles de gym. Y a pas vraiment le choix, il faut perdre du poids, la plage est prête à vous montrer du doigt. C'est le temps des promenades en vélo et des belles randonnées sac au dos, mais aussi des chaises longues, de la flemme et des tongs, tandis que les enfants jouent au ping-pong. Tout est mieux dès que ça sent l'été et la sangria glacée. Tout le monde est bien luné, et si on s'écoutait, on vendrait la télé. Tout va mieux dès que ça sent l'été. La vie prend des libertés. Le soleil l'a fait briller. L'avenir est bronzé dès que ça sent l'été.
Ça sent l'été, une autre chanson dans la catégorie qu'on en écouterait pas mal plus longtemps que ce 4 minutes 2 de soleil.
Les journaux régionaux, un prix d'excellence pour le droit, Pierre-Paul Noreau. À l'occasion du congrès de l'Association de la presse francophone, APF, qui se tenait la fin de semaine dernière à Sudbury, le quotidien Le Droit a décroché le prix d'excellence générale pour la rédaction journalistique. Il s'agit d'une des distinctions les plus convoitées puisqu'elle récompense l'ensemble de la qualité rédactionnelle du journal, de la structure des textes à la variété des styles, en passant par le caractère informatif des phrases et bien entendu la qualité du français. Il y a tout un défi à produire quotidiennement l'équivalent du contenu d'un petit livre. C'est donc tout à l'honneur de nos journalistes, à la production et au pupitre d'avoir décroché ce prix d'excellence. Bravo et merci. Une partie du mérite revient également au rédacteur en chef Patrice Gaudreau et à la directrice de l'information Geneviève Turcot, qui dirige avec professionnalisme, doigté et talent notre salle de nouvelles. Le Droit s'est par ailleurs imposé parmi les finalistes dans les trois autres catégories dans lesquelles la direction avait soumis une proposition, soit projet spécial de l'année, photographie de l'année et enfin journal de l'année. L'équipe de la rédaction a en partie réunie sur la photo accompagnant ce texte et l'ensemble des artisans du droit remercie l'APF et les membres du jury pour cet honneur. Nous saluons les autres finalistes et récipiendaires des prix décernés lors du congrès et tout particulièrement l'équipe de l'Express de Toronto qui a décroché les grands honneurs comme journal de l'année. Le droit est fier de servir la population de la grande région de la capitale et d'assurer la diffusion d'une information de qualité en français des deux côtés de la rivière des Outaouais. Dans le soleil, Marc Allard, les caméras du G7 vous filment encore. Exclusif, souriez, vous êtes encore filmé par les caméras du G7. En prévision du sommet, le maire de Québec, Régis Labeaume, avait autorisé un achat spécial d'urgence de caméras de sécurité pour le service de police de la Ville de Québec, SPVQ. Il y en avait pour 141 000 $. Ces caméras ont fonctionné à Québec pendant le sommet, mais elles n'ont jamais cessé d'enregistrer, a appris Le Soleil. Oui, elles sont toujours en fonction, confirme David Poitras, porte-parole du SPVQ. Le SPVQ est toujours en réflexion pour savoir si on garde tous ces ajouts-là pour les futurs événements. Et ce n'est pas juste pour des manifestations, ajoute M. Poitras. Ça peut être utile dans le cadre de grands événements et dans le cadre de certaines enquêtes, précise-t-il, citant en exemple le festival d'été, le carnaval ou le Grand Prix cycliste. Impossible toutefois d'obtenir d'autres précisions au sujet de ces appareils de surveillance. Pour des raisons stratégiques, on ne dévoile ni l'emplacement, ni le nombre, ni le type de caméra, indique David Poitras. Lors du G7, les caméras avaient été installées dans des secteurs jugés plus propices en matière de sécurité, précise M. Poitras. Elles n'ont pas bougé depuis. Rappelons que le centre des congrès, le Parlement, le Château Frontenac, la Grande Allée, l'avenue Cartier et une partie du boulevard René-Lévesque et du chemin Sainte-Foy avaient fait l'objet d'une surveillance policière plus étroite durant les manifestations anti-G7. La Coalition pour le droit de manifester à Québec dénonce le maintien des caméras de surveillance du G7. Ce genre de manœuvre-là, où on se sert d'événements pour installer et mettre en fonction de la surveillance de cette ampleur-là, dans une ville, sans consulter d'aucune façon la population, nous, on trouve ça complètement déplorable, dit le porte-parole de la Coalition, Vania Wright-Larrain. Les gens devraient pouvoir savoir où sont ces caméras, qu'est-ce qu'elles filment, combien, comment. Il n'y a pas d'information qui est donnée, c'est fait en catimini, ajoute-t-il. Geneviève Lajeunesse, directrice de Crypto Québec, un média sans but lucratif qui se spécialise notamment dans les enjeux de sécurité et information, des technologies de l'information et du renseignement, estime que la poursuite des enregistrements des caméras du G7 soulève des questions sur leur utilité pour le maintien de l'ordre. Elle souligne que les caméras peuvent avoir un effet dissuasif chez ceux qui seraient tentés de commettre un acte criminel. Les images captées peuvent aussi servir de preuve en justice, note Mme Lajeunesse. Toutefois, les caméras peuvent bafouer le droit à la vie privée de plusieurs manières, ajoute-t-elle. Les données récoltées ne sont pas imperméables aux fuites ou au piratage. Ça a beau être pensé pour un usage sécuritaire, la sécurité du matériel n'est pas toujours assurée. De plus, les caméras peuvent donner le sentiment aux citoyens qu'ils sont constamment surveillés. On ne sait jamais si l'œil nous regarde, illustre-t-elle. Geneviève Lajeunesse estime aussi que les caméras de surveillance peuvent décourager les manifestations de s'exprimer. Elle ne voudrait pas que des rues et des parcs de Québec s'apparentent à la zone de libre expression réservée aux manifestants contre le G7 à la Malbaie. C'est un endroit clôturé avec des caméras qui les regardent, dit Madame la Jeunesse. On ne veut pas que nos lieux publics deviennent comme ça. Dans la tribune Jasmine Rondeau, un raïf badawi aux couleurs insufflant le courage et la liberté décorera désormais les murs extérieurs du pavillon Irénée Pinard à l'Université de Sherbrooke. L'UDS a dévoilé mercredi après-midi une murale artistique spécialement dédiée au blogueur saoudien, qui est détenu dans son pays d'origine depuis maintenant 6 ans. Cette reconnaissance tombe à point alors que l'anniversaire de son emprisonnement a eu lieu dimanche dernier. Pour nous, c'est une façon de se rappeler quotidiennement et de rappeler à la communauté universitaire le drame de l'homme emprisonné en Arabie saoudite, mais aussi l'importance de la liberté d'expression comme valeur de notre société. M. Badawi est un modèle de courage et de promotion des droits fondamentaux, a partagé le recteur de l'UDS, Pierre Cossette. La flamboyante murale, d'une dimension de 4,4 mètres sur 4,8 mètres, est la production d'une œuvre du peintre Louis Robichaud. L'artiste, dans une volonté de promouvoir la cause, avait gracieusement cédé ses droits à Ansaf Haidar, la femme de M. Badawi. Le premier devoir d'un artiste est de cultiver et nourrir sa sensibilité parce que c'est le principal matériau de son art. Raïf Badawi et Ansaf Haidar sont des héros. Je pense à eux tous les jours. Ce portrait, je l'ai d'abord fait pour moi, pour me débarrasser d'une partie de mon impuissance et pour rendre hommage à ce frère humain. Cet arabe, en prison à l'autre bout du monde, je l'aime. C'est avec humilité que j'ai offert ce tableau. L'humilité d'un enfant qui fait un dessin, qui est tout ce qu'il peut offrir avec l'espoir d'arrêter les guerres, a partagé l'artiste sur Facebook lorsqu'il a fait le don de l'œuvre à Madame Haidar. Le quotidien Laura Lévesque, Alma, innove en créant le premier Media Lab de la région, un espace public dédié à se familiariser avec les nouvelles technologies. La capitale genoise rejoint ainsi les rangs de quelques grandes villes du Québec qui ont mis sur pied un tel service pour leurs citoyens. Dès l'automne prochain, dans l'édifice Paul Tremblay, les gens pourront tester et développer des compétences en infographie, en conception graphique, en création vidéo et audio, en impression 3D, en photographie, en robotique et en électronique. Le laboratoire de création numérique, accessible gratuitement, permettra de démocratiser les nouvelles technologies, résume Émilie Guertin, responsable du projet. Cet espace est un prolongement de la bibliothèque d'Alma. Et pour terminer cette tournée des journaux régionaux, Louis-Simon Gauthier dans Le Nouvelliste, 15 ans ont passé depuis son départ des Expos de Montréal. Pourtant, on sent que Vladimir Guerrero est encore très attaché au Québec. Ce n'est pas un hasard s'il a accepté l'invitation des Aigles de Trois-Rivières et des Capitales à séjourner dans leur région jusqu'au 23 juin. Moyennant quelques dollars, il faut le dire. Accompagné de membres de sa famille et de son agent, le grand Vlad est apparu dans les corridors du stade Stéréo Plus peu après 13 heures mercredi. Non, il n'a pas beaucoup changé. On constate au premier coup d'œil qu'il est encore en bonne forme physique. Une courte réception civique avait été organisée dans le hall d'entrée du stade, la mairesse suppléante Ginette Bellemare, lui souhaitant la bienvenue aux côtés du président des Aigles Marc-André Bergeron, lui-même un grand fan du numéro 27. C'est un honneur d'être ici, a répété le Dominicain de 43 ans. À quelques reprises, il était sincère car jamais durant le long point de presse n'a-t-il laissé transparaître des signes d'impatience. L'interprète qui traduisait les questions du français à l'espagnol Diego Brunel Diaz l'a fait rire en certaines occasions. « Je vais passer de beaux moments. Il y a 2 ou 3 ans, les Aigles voulaient que je vienne, mais un conflit d'horaire m'avait empêché de voyager. » De retour après la pause avec une chanson d'été signée Ella Fitzgerald.
your bed and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry.
One of these mornings you gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Standing by.
Summertime. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking.
Summertime, George Gershwin, interprété ici par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong.
Spectaculaire, la comédie musicale Fame impressionne grâce à ses numéros de danse enlevant. C'est Bruno Lapointe qui signe la chronique, la critique de Fame. On connaît le titre, on connaît la chanson, mais les grandes lignes du récit, plusieurs les ignorent. Ce spectacle musical inspiré du film du même titre suit le quotidien d'une bande d'adolescents inscrits à la célèbre High School of Performing Arts de New York, une école de formation artistique aussi renommée que sélective. Oui, la trame narrative est particulièrement mince. Pourtant, Serge Postigo, qui signe à la fois la mise en scène, la traduction et l'adaptation de l'œuvre, a réussi le solide exploit de rendre sa relecture du récit original intéressante en élevant sa facture visuelle bien au-delà des attentes. Résultat, on a droit à un spectacle véritablement homogène plutôt qu'à un simple enchaînement de numéros musicaux. Évidemment, ce sont tout de même ses numéros musicaux qui font de son Fame une réussite. Rarement aura-t-on vu des chorégraphies aussi impressionnantes dans une comédie musicale québécoise. Le chorégraphe Steve Bolton, qui signait également les numéros de danse de Mary Poppins et Footloose, a visiblement élevé le niveau de qualité de plusieurs crans, surtout lorsqu'il marie le ballet classique et le hip-hop pour créer des numéros de haute voltige. Et la musique? Soyons francs, Fame ne dispose pas des nombreux verres d'oreilles qui permettent aux Footloose, Grease et autres Chicago de ce monde de capter instantanément et facilement l'attention des spectateurs. Non, on ne quittera pas la salle de spectacle en fredonnant les airs autres que la pièce-titre. Mais on quittera tout de même la salle habitée par certaines performances vocales franchement impressionnantes entendues au cours de la soirée. À ce chapitre, on ne vantera jamais assez l'incroyable tour de chant qu'offre Marie-Denise Pelletier avec la pièce « Ce sont mes enfants », c'est le titre de la pièce. À 58 ans, la chanteuse n'a jamais été aussi en voix ni en contrôle de son instrument. Frissons, chair de poule et compagnie, tout y est. Bref, voilà une performance qu'on n'oubliera pas de sitôt. On se doit également de souligner celle de Gabrielle Fontaine qui brille dans le rôle de Serena Katz. Aussi efficace pour jouer la comédie que pour pousser la note, elle forme un duo particulièrement attachant avec Jordan Donohue, qui prête ici ses traits au personnage de Nick Piazza. En revanche, si Fame nous propose de grandes performances vocales, le spectacle nous en propose d'autres un peu moins glorieuses. La célébrissime chanson-titre, indubitablement le numéro musical le plus attendu de la soirée, s'avère au final légèrement décevante. Malgré toute sa fougue, la reprise livrée par Élisabeth Gauthier-Pelletier, alias Carmen Diaz, manque par moments de justesse et de précision. C'est également le cas du danseur belge John Box, l'interprète de Tyrone. Très à l'aise et efficace dans le rap, ses limitations vocales se font toutefois sentir lors de la chanson « Danser sur les trottoirs » où il doit pousser la note. Heureusement, le jeune homme parvient à éclipser entièrement ses lacunes grâce à ses aptitudes de danse tout simplement phénoménales. Mention spéciale également à Lisa Palmieri, un de nos plus grands coups de cœur de cette production. Même dans un rôle de second plan, elle parvient à voler la vedette à chacune de ses apparitions sur scène grâce à son charisme et son indéniable talent pour la comédie. On l'avait remarqué il y a 2 ans avec Mary Poppins, mais on la découvre encore davantage aujourd'hui. Et chose certaine, on continuera de la surveiller. La comédie musicale Fame est présentée jusqu'au 21 juillet au Théâtre Saint-Denis. Les participants aux 2 défilés de la fête nationale qui animeront Montréal ce dimanche 24 juin répétaient leur chorégraphie hier devant quelques spectateurs. Présentés sous le thème « La rencontre des vents », les 2 processions, le Nordais et le Suroît, s'élanceront dès 21h15 sur le boulevard de Maisonneuve, l'une à partir de la rue Peel et l'autre de la rue Saint-Denis pour se joindre sur la place des festivals. Et on se croise les doigts pour qu'il fasse beau. Art visuel, l'exploratrice des matières n'est plus. La sculptrice Louise Vigée a rendu l'âme au terme d'une carrière foisonnante. La prolifique sculptrice Louise Vigée n'est plus. Atteinte de 4 cancers, elle a rendu l'âme mardi à l'âge de 78 ans. Celle dont l'œuvre iconoclaste se démarque notamment par l'utilisation de matériaux inusités et la recherche de légèreté est saluée par ses pairs pour sa singularité, son engagement et sa générosité. L'artiste réputé a connu une carrière foisonnante parmi ses thèmes de prédilection, l'être humain et sa condition. Louise Vigée s'est d'abord intéressée à sa figure, puis à son revêtement. Au cours des dernières années, l'effacement et la disparition sont devenus centraux dans son œuvre. Depuis 1978, elle a réalisé plusieurs expositions individuelles au Québec, notamment au Musée d'art contemporain de Montréal et au Musée national des beaux-arts du Québec. Femme d'équipe, elle a collaboré à de nombreuses œuvres collectives, dont « Seeing in Tongues »,« Le bout de la langue » et « Femme artiste du 20e siècle au Québec ». Louise Vigée est également reconnue pour la 15aine d'œuvres d'art public qu'elle a confectionnées. Parmi elles, « Voix sans bruit » qu'on peut voir à la Grande Bibliothèque de Montréal, des lauriers pour mémoire conçus en hommage à Jean Duceppe et une architecture d'air installée à l'entrée de la Plaza Saint-Hubert. Récemment, elle avait créé la traversée des Lucioles installée dans l'entrée du nouveau CHUM à Montréal. Ironie du sort, l'artiste a été appelée à revoir cette œuvre fréquemment au cours des derniers mois, puisqu'elle recevait des traitements de chimiothérapie dans cet hôpital. Louise Vigée a également été jury dans de nombreux concours d'art public. Elle était très impliquée dans son milieu, mentionne son ami, l'artiste Serge Murphy, qui la connaissait depuis 45 ans, à l'époque où ils étaient tous deux étudiants à l'Université Laval. Un autre ami, Charles Gilbert, également artiste, l'a qualifiée d'exploratrice des matières dans un texte hommage. Et pour cause, Louise Vigée s'est distinguée par son utilisation de matériaux inattendus tels que de la mousse de sécheuse et différentes formes de nourriture. Et pour terminer cette portion culturelle, le Festival de jazz sortira du quartier des spectacles l'an prochain. À partir de sa 40e année d'existence, l'an prochain, le Festival international de jazz de Montréal changera de formule. Son quartier général demeurera le quartier des spectacles, mais il se déploiera aussi dans un autre quartier de Montréal qui changera chaque année jusqu'en 2023. Un terrain vague de Verdun, de Rosemont, de Montréal-Nord. Le premier lieu qui accueillera des spectacles l'an prochain est à déterminer, ainsi que les autres à venir. Jacques-André Dupont, président de l'équipe Spectra, en a fait l'annonce hier sur le belvédère du Mont-Royal, lors d'une conférence de presse à laquelle a participé la mairesse Valérie Plante. Les cofondateurs du FIJM, Alain Simard et André Ménard, étaient aussi présents, de même que Jacques Primeau, président du conseil d'administration du partenariat du quartier des spectacles. Les lieux de spectacle en marge du quartier des spectacles seront appelés hubs avec une scène et de l'animation.
J'ai passé l'été, le cœur sur la corde à linge et la tête au congélateur. Passer l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villeray et déjà dans le ciel une fille déshabille Montréal et la ville avale le soleil. L'été à écouter chanter les oiseaux, les rideaux fermés, et parmi les mal-aimés, étendus par milliers, tout nus sur les grandes pelouses. Et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal et la ville avale le soleil. Saison en enfer, j'ai viré les arbres.
invité de Philippe B.
Libre dans la section débat opinion, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Mathieu nous le disait tantôt dans les éphémérides et je vais vous lire l'article, en fait le texte ou l'opinion de Isabelle Picard qui est ethnologue intitulée « Avec vous ». Le 21 juin, date du solstice d'été, se veut la Journée nationale des peuples autochtones telle que l'a décrété le gouvernement fédéral en 1996. Déjà en 1982, la Fraternité des Indiens du Canada, maintenant l'Assemblée des Premières Nations, demandait l'établissement d'un tel jour sans succès. Il aura fallu attendre 14 ans, alors que la Commission royale sur les peuples autochtones faisait de l'adoption d'une telle journée une de ses recommandations pour qu'elle voie le jour. Mais qui sont les peuples autochtones au juste? La réponse officielle énoncerait que la Constitution canadienne reconnaît trois groupes distincts, les Inuits, les Indiens, puisque c'est inscrit ainsi, allons-y, et le peuple métis. Louis Riel, ça vous dit quelque chose? Mais chaque fois que je réponds ça, j'ai un pincement au cœur. Encore une fois, c'est la couronne qui décide qui est autochtone et qui ne l'est pas. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas aux bandes de valider qui est membre de leur communauté ou pas. C'est le ministère des Affaires autochtones et du Nord qui tranche. Décolonisation, on repassera. Bref, je m'éloigne. L'heure est à la fête, non? Si certains célèbrent la fierté d'être autochtones en cette journée nationale, un peu comme les Québécois le font à la Saint-Jean-Baptiste, pour d'autres, c'est le moment du bilan annuel. C'est mon cas. Chaque année, à cette date, j'analyse les avancées et les reculs que l'année a amenés. Je réfléchis aux relations que nous avons avec les gouvernements en place, avec les Québécois et les Canadiens. L'année 2017-2018 a été marquée par bien des beaux mots, de beaux espoirs, mais aussi de grandes déceptions qui fouettent l'âme. Les deux commissions mises en place respectivement par les gouvernements fédéral et provincial, à la suite des demandes répétées de différents leaders autochtones, soit l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi que la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, battent leur plein. Justin a fait un discours marquant et porteur d'espoir à l'ONU dans lequel il dénonçait la grande faillite du Canada vis-à-vis les Autochtones, pendant lequel je fredonnais « paroles et paroles » en espérant que cette fois soit la bonne. Puis il y eut le verdict de l'affaire Colton Bushy qui ébranla une fois de plus la confiance des premiers peuples envers le système de justice actuel. Dernièrement, le gouvernement du Canada faisait l'acquisition de l'oléoduc Trans Mountain, projet grandement dénoncé par plusieurs Premières Nations au Canada, montrant son vrai visage aux yeux de plusieurs. Ensuite, il y a à peine un mois, le projet de loi C-262, lancé par le député Roméo Saganache, visant à assurer l'harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, était adopté en troisième lecture à la Chambre des communes. Un pas de géant, certainement digne de mention. Puis, il y a la catégorie des petits progrès, celles dont on parle peu, mais qui, quand on les additionne, produisent leur lot de changements positifs. D'abord, les initiatives issues des médias pour donner une voix aux Autochtones ont été nombreuses cette année. Radio-Canada embauchait un peu partout au Québec des stagiaires en journalisme, tous issus des premiers peuples, renforçant ainsi sa section « Espace autochtone » et ouvrant la porte à la catégorie des oubliés. La Presse Plus ouvrait la porte à une collaboratrice autochtone dans sa section « Débat », une première pour un grand quotidien québécois, si je ne m'abuse. Natacha Canapé-Fontaine faisait une entrée fracassante dans la série « Unité 9 » sous les traits d'une Eyota Standing Bear bouleversante. On voyait les Samian, Stanley Volant, Michel Audette, Mélissa Mullen-Dupuis et d'autres encore sur les écrans et dans les émissions à grande écoute. La Ville de Montréal nommait une commissaire aux affaires autochtones une première. Plusieurs organisations créaient des programmes pour les Autochtones avec des Autochtones, s'intéressaient à la question, nous regardaient droit dans les yeux. Nous passions de l'invisible au visible, de l'ombre à la lumière et surtout, on écoutait ce qu'on avait à dire. Cette place, elle a été faite par des Québécois et des Canadiens qui se sont sentis concernés et qui ont voulu participer au mouvement à la hauteur de ce qui leur était possible de faire. Il est là le grand changement. Jamais un tel nombre d'organisations publiques, parapubliques ou privées n'ont autant requis les services de spécialistes des premiers peuples pour la formation de leur personnel sur le sujet autochtone. Les conférences et autres activités de sensibilisation offertes se sont également multipliées. C'est cette catégorie qui remporte la palme sans aucun doute cette année. Les changements dans les communautés sont plus difficiles à mesurer. D'abord parce qu'il y a 55 communautés autochtones au Québec, chacune avec des enjeux, des besoins et des réalités différents. Ensuite, parce que changer les choses prend du temps, surtout peut-être en communauté. Mais on avance aussi et mieux avec vous. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, il nous est enfin permis de rêver à tout, à n'importe quoi, aussi parce que vous êtes là. Et croyez-moi, ça fait drôlement de bien. C'est donc l'opinion de Isabelle Picard, ethnologue en cette Journée nationale des peuples autochtones. Mathieu, aimez-vous le café glacé?
Mm-hmm.
Oui. Est-ce que vous avez un petit café à nous suggérer pour aller en prendre un bon?
Excusez-moi, non.
Non, mais ça aurait pu...
En fait, je l'ai fait maison. C'est pour ça que
Faites maison?
En fait, oui, je fais des mochas glacés.
Oh, wow! Alors, dans le Journal de Montréal, je vous pose cette question, Mathieu, parce qu'on propose 5 endroits où boire les meilleurs cafés glacés à Montréal. Donc, on ira faire des tests. Premier endroit, c'est un article signé Bélodie Lamoureux. Croissant-Croissant. Situé sur l'avenue du Mont-Royal-Est, le Croissant-Croissant est l'adresse chouchou des habitants du quartier quand vient le temps de boire un délicieux latte glacé. Si vous êtes intolérant au lactose, sachez que vous pouvez demander un latte au lait d'amande, au lait de noix de macadamia et même au lait d'avoine. Une belle adresse à découvrir cet été, 2270 avenue du Mont-Royal-Est. Campanelli, pour un bon café sur le pouce ou pour faire le plein de caféine dans un magnifique endroit, un arrêt au Campanelli s'impose. Situé dans le quartier Saint-Henri, ce charmant petit café italien offre également des viennoiseries et des sandwichs. Un bel endroit où se rafraîchir cet été, 4634 rue Notre-Dame-Ouest. Café Névé. La réputation du café Névé n'est plus à faire. Pour boire un bon café, été comme hiver, c'est la place où aller. Le service y est excellent et le café est toujours à la hauteur de nos attentes. Impossible d'être déçu par le café Névé et encore moins par ses cafés glacés. Café Névé, 51 rue Rachel-Est. Donc, on est rendu au quatrième endroit, la station W, pour prendre un bon café glacé. La station W est un arrêt obligé pour les amoureux de café. Le charmant établissement, désormais situé à Verdun et dans les Shops Angus, est un lieu de prédilection pour aller étudier ou feuilleter un magazine tranquillement. Leurs cafés glacés sont savoureux et vous pouvez même vous commander un bon déjeuner pour bien commencer la journée. Deux adresses, donc 3852 rue Wellington et 2600 rue William Tremblay, local 124. Et on termine avec Dispatch Coffee au Québec. Donc, si vous avez envie de vous balader sur le boulevard Saint-Laurent, café glacé à la main, vous devez absolument faire un arrêt au Dispatch Coffee situé au coin de l'avenue du Lutte. Vous pourrez y siroter de fabuleux cafés, mais aussi assister à des cours de dégustation de café gratuits. Suivez-les sur leur page Facebook pour savoir quand aura lieu la prochaine rencontre. 4021 Boulevard Saint-Laurent. une journée magnifique. Ciel bleu, température parfaite. Alors, j'espère que vous allez faire quelque chose de spécial en cette journée spéciale, solstice d'été. Vive l'été, je vous souhaite un été merveilleux, agréable et bonne journée. Donc, on se retrouve demain, ce sera la deuxième journée de l'été. Ici Hélène Denis, merci d'avoir été à l'écoute de Le Quotidien des Quotidiens. Merci Mathieu Tessier au choix musical et à la mise en onde. À demain.